Avoir raison avec l'architecte américain Frank Lloyd Wright par Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. On a coutume de dire que la modernité en architecture s'incarne dans deux grandes figures que pourtant bien des choses opposent. La première, c'est celle de Le Corbusier et la seconde, c'est celle de Frank Lloyd Wright. Le Corbusier a été le phare du mouvement moderne. Il a répandu avec d'autres les idées nouvelles sur l'architecture et ce tout autour du monde, mais à partir de l'Europe. Tandis que Wright, de son côté, c'est le penseur de l'architecture américaine et sa pensée centrée sur l'individu, la famille, la communauté était aux antipodes des grands concepts sociaux de son rival parisien. Aujourd'hui, les idées urbanistiques de Wright nous intéressent d'autant plus qu'il prônait les circuits courts, une certaine autosuffisance alimentaire, une manière d'habiter en accord avec la nature, autant de thématiques qui nous sont étonnamment proches. Alors on va donc explorer toute la semaine la vision du monde de cet architecte et voir comment elle s'est concrétisée dans des maisons dites de la prairie, mais aussi des maisons dites hussoniennes ou la maison dite sur la cascade ou encore le célèbre musée Guggenheim de New York. Nous le faisons pour commencer avec vous, Daniel Trébert. Bonjour à vous.
Bonjour, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors vous êtes architecte et professeur des écoles d'architecture, spécialiste de Frank Lloyd Wright, à qui vous avez récemment consacré un livre aux éditions Parenthèse, intitulé « Frank Lloyd Wright, 5 approches », tout comme vous aviez publié chez Hazan un autre essai sur ce grand architecte, architecte dont il faut tout de suite rappeler qu'il a su se renouveler, vous le dites d'une manière spectaculaire, Daniel Trébert.
Oui, quand on feuillette des livres sur Wright, la chose la plus frappante d'abord, c'est la grande variété de son œuvre. Il y a des choses qui appartiennent à l'époque de l'avant de la modernité. Il est un des grands précurseurs de l'architecture moderne, avec les maisons de la prairie et l'Unity Temple, donc des bâtiments construits entre 1900 et 1910. Et il est aussi le grand moderne des années 30 avec des bâtiments comme la maison sur la cascade.
Mais il faut pas oublier que c'est un homme qui est né au 19e siècle et pas tout à la fin du 19e siècle, le 8 juin 1867 et il est mort en 1959. C'est donc une carrière extrêmement longue.
Oui, ben oui, il est mort à 92 ans et il a commencé l'architecture quasiment à l'âge de 20 ans. En 1889, quand il construit sa maison, il a 22 ans, 23 ans. Mmh. Et donc c'est 70 années d'architecture qu'on a devant nous quand on contemple son œuvre.
Alors est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre cohérente? Parce que je crois que Wright, on va parler aujourd'hui beaucoup de sa personnalité, c'était pas quelqu'un qui aimait tellement l'idée de la cohérence.
Non, il était assez hostile à cette idée et je pense ce qui fait d'ailleurs la complexité de son architecture, ce sont les contradictions qui leur sont sous-jacentes à ses différentes œuvres. Il y a l'œuvre du précurseur de la modernité où il invente l'espace fluide. On peut dire qu'il l'a inventé, même si certains historiens ont critiqué cette idée d'invention. Et il est aussi l'architecte d'une œuvre tout à fait paradoxale dans les années 1920, entre 1920 et 1930, avec des bâtiments très décorés, des ornements extrêmement présents, au moment même où en Europe on invente une architecture au contraire totalement dépouillée. Il y a ce contraste étonnant entre cette œuvre américaine que Wright construit notamment en Californie, avec des maisons à Los Angeles en 1922, qui sont faites avec des parpaings moulurés, alors qu'au contraire, en Europe, on va utiliser du béton enduit lisse, peint en blanc.
Donc c'est vraiment l'homme des paradoxes. Je pense que c'est ce qui va revenir un petit peu tout au long de cette semaine. C'est que il est à la fois un homme du passé et un homme de l'extrême modernité. Il est au milieu de tout un tas de relations paradoxales.
Oui. C'est ce qui fait, à mon avis, le sel de son œuvre.
Oui. Alors avec vous, on va voir un peu comment Wright a été un architecte, mais aussi une espèce de gourou, une personnalité très particulière, un rebelle même, dites-vous. On va faire donc le portrait de ce grand visionnaire, et peut-être d'abord en évoquant un petit peu ses origines. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Daniel Trébert, et peut-être de ses origines familiales d'abord?
Oui, il y a un clan, Lloyd Jones, c'est le clan de sa maman était une Lloyd Jones. Ce sont des émigrés gallois qui s'installent dans le Wisconsin.
Donc c'est la région de Chicago.
C'est la région de Chicago, oui, à l'ouest de Chicago, une région très agricole. Tous ces gens sont la plupart des agriculteurs, hein, sauf un des oncles qui sera un des grands prédicateurs unitariens. Et la famille Lloyd Jones est un élément important dans la construction de la culture de Wright. À la fois, il y a cet aspect unitarien, mais il y a aussi le fait que deux des tantes animaient une école, et ce sont elles qui ont nourri Wright en livres, en littérature. Ce sont les tantes Nell et Jane qui ont fait lire Viollet-le-Duc, Ruskin. Wright dit qu'il a lu les sept lampes de Ruskin à l'âge de 14 ans, un cadeau d'une des tantes. Il a lu en fait toute l'œuvre de Ruskin, qui est
donc
une
un
œuvre
critique
assez
d'art
importante.
Anglais.
Un critique d'art anglais du 19e siècle, hein, c'est le grand critique de l'Angleterre de l'époque victorienne.
Donc on a un Frank Lloyd Wright qui naît dans une atmosphère qu'on pourrait qualifier de religieuse. D'ailleurs, dans une mini-biographie que l'écrivain américain John Dos Passos a consacrée à Wright dans son livre La Grosse Galette, il dit que Wright, un peu comme son père qui était un prédicateur, va lui aussi devenir une sorte de prédicateur. Comment vous comprenez cette phrase de John Dos Passos?
Il y a une affiche en 1932 où Wright annonce une conférence où il se présente comme rebelle, génie et prophète. Et je pense que c'est extrêmement symptomatique. Wright se pense bien sûr comme un génie. Il s'est comparé même à Dieu lorsque un peintre lui a présenté une fresque qui montrait toute l'histoire de l'architecture en lui disant « Je vous ai mis à la place de Moïse ». Wright lui réplique « Mais en fait, je ne suis pas Moïse dans cette histoire, je suis Dieu ». C'est donc quelqu'un qui est caractérisé par un orgueil immense.
Il avait raison, selon vous, c'est le dieu de l'architecture, au moins américaine.
C'est certainement un des grands architectes américains, oui, il y en a d'autres, évidemment. C'est une figure un peu à part. Aujourd'hui, en Amérique, on le considère comme le plus grand architecte américain. De son vivant, il y avait une réception extrêmement critique. Et d'ailleurs, ça a entraîné, à mon avis, la crise de 1909, lorsque Wright décide de quitter Chicago, de quitter sa femme, de fermer l'agence pour partir avec une de ses clientes. C'est aussi parce que la réception était très mauvaise. Son œuvre, il avait construit pas mal de bâtiments, de très belles maisons que nous admirons aujourd'hui, mais qui, à l'époque, paraissaient surtout bizarres. Et les bâtiments publics qu'il a faits sont critiqués. Il y a un article dans un journal d'architecture, Architectural Review Forum, qui le présente comme un bâtiment totalement monstrueux.
Alors on va revenir, pardonnez-moi Daniel Trébert, oui, sur ce moment de rupture très important dans la vie de Frank Lloyd Wright, mais j'aimerais poursuivre un petit peu sur ce rapport au religieux et puis cette idée d'un prédicateur, parce que en effet, il va prêcher, il ne se contente pas de faire des bâtiments comme ça dans son coin, il a une vision du monde et il entend que cette vision du monde d'abord se retrouve dans la forme de ces bâtiments et puis que finalement les Américains adopte cette vision du monde. Il y a un côté comme ça, prédicateur, justement.
Oui. C'est en 1930 qu'il publie un livre qui s'appelle « La ville évanescente », « The Disappearing City », où il explique que la ville est condamnée et qu'elle ne pourra proposer aux hommes un cadre pour vivre qui soit acceptable qu'en devenant totalement agricole. C'est cette fusion entre la vie urbaine et l'agriculture que Wright va défendre dans sa ville qu'il a appelée Broadacre City, pour une Amérique nouvelle qu'il appelle l'Usonie. Et il élabore cette idée en 1930, mais il va la reprendre en 1945 avec un livre un peu plus important, et également en 1958. Donc, depuis 1930 jusqu'à sa mort, il a défendu cette idée d'une métropole agricole et d'une ville diffuse où finalement chacun devrait avoir sa terre, son morceau de terre, sa maison, chaque famille a sa maison, avec l'obligation d'entretenir un potager et de participer à la production nos moyens de subsistance.
Alors on en parlera essentiellement mercredi de cette Broadacre City, cette ville diffuse, mais c'est vrai que c'est une part très importante de l'œuvre de Frank Lloyd Wright. Revenons peut-être un petit peu à cet enfant sensible, parce que ça n'est pas sans lien, cet enfant sensible qui naît justement dans la nature. Et on peut imaginer que tout son rapport justement à la nature, son envie justement de mettre la ville un petit peu à la campagne, vient de cette enfance. C'est ce que vous pensez en tous les cas, Daniel Treiber ?
Oui, ben oui, à l'âge de 10 ans, Wright va passer pendant 6 ans, tous les printemps et tous les étés, à la ferme de l'oncle James, à vivre la vie des agriculteurs. On le réveille à 4 heures du matin, il doit aller traire les vaches. Et c'est assez rude pour lui, il va d'ailleurs fuguer à un moment donné. Il y a de très belles pages dans l'autobiographie où il raconte cette formation. Il a été formé à la dure et formé au travail.
Et ça se retrouve dans sa personnalité, ça ?
Oui, je pense, oui. Je pense que Wright était certainement quelqu'un d'extrêmement exigeant, un travailleur acharné. Il a produit des centaines de bâtiments. C'est quelqu'un qui travaillait tout le temps.
Mmh. La nature, c'est aussi l'expérience des éléments, l'expérience de la neige, par exemple.
Oui, il y a des pages formidables dans l'autobiographie où il raconte qu'il emmène sa famille marcher pieds nus dans la neige le matin. Le livre commence d'ailleurs par une sorte de parabole, l'histoire d'un jeune garçon qui est emmené par un de ses oncles pour une longue promenade dans les collines sous la neige. Et le garçon court de ci de là et va cueillir des herbes, tandis que l'oncle, lui, essuie une ligne droite. Et c'est bien sûr, c'est une parabole de la ligne droite et de la ligne courbe. Wright va travailler beaucoup sur les lignes droites, et notamment dans sa première période. Et ensuite, il va intégrer les lignes courbes, il va essayer des géométries très différentes. Il va même essayer des collages, des choses assez différentes de l'idée organique, finalement, qui était quand même l'idée principale de son œuvre.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vocation d'architecte ? Est-ce qu'on peut dire cela ? Alors, il paraît que c'est sa mère qui lui disait, qui était aussi quelqu'un qui pouvait faire des prédictions, qui lui disait « tu deviendras architecte, mon fils ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende, ça ?
C'est ce qu'il raconte. Et je pense que c'est vrai. Sa mère voulait que son fils soit un architecte. Pourquoi un architecte ? Je pense qu'il y a un lien avec le créateur, avec C majuscule. L'architecte, c'est un homme qui crée. Et sa mère commence par décorer la chambre de son fils avec des gravures qui représentent les cathédrales. Ensuite, c'est sa mère également qui découvrira des jeux pédagogiques, les jeux Froebel, qui ont influencé non seulement Wright, mais d'autres architectes. Par exemple, un grand architecte vénitien, Scarpa, aussi a été formé avec les jeux de Froebel.
Ce sont des jeux de cubes ?
Ce sont des jeux de cubes, mais aussi avec des lignes. Il y a plusieurs jeux, mais les jeux de cubes sont les jeux les plus célèbres. Et il y a des travaux d'articulation entre les formes, une exploration de la géométrie. Et tout ça amené par la mère, oui. Je pense que la maman était vraiment un élément clé dans la formation de Wright.
Mais alors ensuite, il est un peu autodidacte, hein, parce qu'il va commencer des études d'ingénieur, mais sans les terminer réellement.
Oui, il a commencé des études de génie civil. Il a travaillé à mi-temps chez un de ses professeurs, qui lui a appris le dessin. Et sans doute, c'était déjà un assez bon dessinateur, mais il va avoir cette formation de génie civil et au bout d'un ou deux ans, il décide de fuguer, de quitter. Il est le soutien quand même de sa mère et de ses deux sœurs. Mais il quitte Madison pour aller à Chicago, pour commencer une vie nouvelle, pour faire de l'architecture réellement.
Ce sera l'homme des vies nouvelles successives, des ruptures successives.
Oui, bien sûr. J'ai développé cette idée à partir de Roland Barthes et quelque chose qui fascinait Roland Barthes à la fin de sa vie, c'était l'idée de Vita Nova. Et pour Barthes, il y avait un lien avec Dante, qui est à l'origine de l'expression même, mais aussi de Michelet. Michelet a vécu deux vies, une vie d'historien, mais il y a aussi une seconde vie où il a écrit des livres très différents à partir du moment où il a vécu avec une jeune femme. Sa seconde épouse avait 31 ans de différence avec lui. C'est le même écart d'âge qu'il y a entre la dernière épouse de Wright, Olgivana, et Wright lui-même.
D'ailleurs. Est-ce que toutes les nouvelles vies de Wright sont liées à la rencontre d'une nouvelle femme ?
Pas directement. Bien sûr, là, il y a cette rupture de 1909 où il quitte sa femme. Ils ont quand même 6 enfants. Hein. Il quitte sa femme, mais l'œuvre architecturale qu'il démarre et qui occupe les années 20, les années 10 et entre 1910 et 1930, elle se partage entre deux femmes. D'abord, Madame Chénet, qui est assassinée dans un drame épouvantable en 1914, et ensuite une autre dame que Wright rencontre, avec laquelle il vivra au Japon quelque temps, le temps de construire l'hôtel impérial pour la famille impériale japonaise. Et c'est cette œuvre qui est très paradoxale, hein, qui est très ruskinienne, avec beaucoup d'ornementation. Mais elle est liée à deux femmes, elle n'est pas liée à une seule femme.
En tout cas, pour reprendre notre chronologie, la première Vita Nova de Frank Lloyd Wright, c'est donc de partir très jeune à Chicago, de se marier, finalement d'avoir une vie presque traditionnelle, voire même puritaine. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là, d'avoir beaucoup d'enfants. Bref, il s'installe quand même très tôt.
Oui, tout à fait, oui. Il se fait une place à Chicago, hein. C'est une ville assez dure quand même à l'époque, et, enfin, je pense aujourd'hui encore une vie assez dure. Il a une vie bourgeoise, c'est cette vie bourgeoise qui ne le satisfera plus à un moment donné.
Oui. Une vie bourgeoise qui se traduit peut-être dans une conception de la maison familiale, Daniel Treiber. Qu'est-ce que c'est qu'une maison pour la famille selon Frank Lloyd Wright ?
C'est un gros dossier, cette affaire de maison, parce que il y a d'une part les maisons de la prairie, qui sont des maisons japonistes avec un lien à la prairie américaine, cette grande zone agricole au centre des États-Unis, où la maison doit être horizontale, structurée avec une grande cheminée au centre.
Tout ça, c'est important, la cheminée.
Oui, c'est vraiment important. C'est une image importante et on la retrouve dans les maisons usoniennes des années 30, qui sont des maisons plus économiques. Même dans la maison sur la cascade, il y a une énorme cheminée. Certaines maisons même sont lestées au sol grâce au massif de maçonnerie que représente la cheminée.
Il y a quelque chose de psychologique chez lui, dans la volonté de faire une énorme cheminée autour de laquelle la famille peut se retrouver. Peut-être que ça vient aussi justement du couple de ses parents d'ailleurs, qui s'est séparé pendant qu'il était enfant.
Oui, je crois que cette rupture des parents a été un vrai problème pour Wright. Wright a estimé que son père ne l'aimait pas, il s'en plaint dans un court passage d'autobiographie. Et pourtant son père lui a apporté beaucoup de choses. Son père était d'abord un musicien avant d'être un prédicateur. Il entendait son père jouer Bach et Beethoven à longueur de soirée. Et ce sont deux grands modèles, je pense, pour Wright. La musique un peu mathématique de Jean-Sébastien Bach et le modèle plus romantique du rebelle chez Beethoven.
Et donc il y a cette volonté de retrouver par l'architecture même. Tout à l'heure vous avez parlé de l'espace libre dont vous avez dit qu'il était un inventeur, finalement des pièces décloisonnées que Frank Lloyd Wright instille dans l'architecture américaine de manière quand même très très présente. C'est un peu l'idée de la circulation entre les pièces, donc de la circulation entre les gens, finalement, pour que tout le monde vive ensemble. Il y a un côté comme ça très très charnel, très émotif, finalement, dans l'architecture telle que Wright la conçoit.
Oui, le plan libre, c'est d'abord pour Wright l'espace fluide, c'est le décloisonnement des pièces. C'est aussi l'ouverture vers la nature, vers l'extérieur. Peut-être plus fortement d'ailleurs au moment usonien que dans les maisons de la prairie. Dans les maisons de la prairie, une forte sensation d'intériorité, ce sont des dedans avant tout. Même si le jardin est un lieu qui est investi par des murets, par toute une série d'éléments architecturaux. Hein. Les jardins que Wright a construits autour de ses maisons sont des jardins d'architecture. Mais l'intérieur est un dedans. Et je crois que c'est pareil pour l'Unity Temple, c'est un grand dedans qui d'une certaine façon se raccorde à l'idée très classique d'espace centré.
C'est un bâtiment, un temple pour l'église unitarienne.
C'est un temple pour l'église unitarienne qui aura été construit en 1905, qui fait partie des bâtiments repérés par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et c'est un bâtiment extrêmement novateur qui annonce l'architecture du mouvement de style des années 20, avec des surfaces plans articulées. Les fenêtres ne sont plus des trous dans les murs, mais des espaces entre des portions de maçonnerie. Et ces portions de maçonnerie créent un rapport avec le jardin, avec le paysage environnant. Peut-être c'est assez proche de l'idée japonaise du shakei. Vous savez, cette idée, dans les jardins japonais, on essaye de capturer la montagne qui est au loin. Et on la capture avec des troncs d'arbres, avec un encadrement, un travail du cadre. Et j'ai consacré un de mes essais du nouveau livre sur Wright à l'idée de cadre et des dessins, précisément parce que c'est une idée extrêmement forte chez Wright, le cadre.
Alors, pour revenir à cette idée de la communauté, du vivre ensemble autour de la grande cheminée, d'une manière presque familiale, j'aimerais qu'on en vienne à l'expérience de Taliesin. Alors, il faut expliquer que donc, après la grande rupture que vous avez évoquée, cette vita nova qui fait que Frank Lloyd Wright, quand il a 42 ans, envoie un peu tout balader, disons, et puis laisse sa femme, laisse son agence, laisse ses enfants, et part avec cette femme, Mamet Cheney, en Europe. Ils y restent quelques mois, et quand il revient, finalement, c'est comme s'il avait envie d'une toute nouvelle architecture, et puis même d'un tout nouveau mode de vie. Peut-on dire cela, selon vous, Daniel Trébert ?
Ah oui, tout à fait, oui. Notamment dans son rapport avec sa compagne. Il ne veut plus cette division du travail entre l'épouse qui s'occupe des enfants et le monsieur qui fait éventuellement de l'architecture. Il veut, au contraire, une symbiose dans le couple. Madame Cheney et surtout Olga Ivanova sont très très proches de l'atelier, sont participés à la construction de l'atelier. C'est avec Olga Ivanova qu'il crée, et quelques autres personnes, qu'il crée le collège de Taliesin.
Alors qu'est-ce que c'est Taliesin ? Parce que c'est un endroit presque mythique, il faut que vous nous expliquiez de quoi il s'agit.
Alors Taliesin, c'est d'abord une maison, c'est la maison qu'il construit pour Madame Cheney, lorsqu'il retourne aux États-Unis, après avoir passé une petite année en Europe. C'est une maison qu'il construit sur un terrain que lui donne sa maman, près des fermes de trois de ses oncles, dans la campagne, à côté d'un fleuve magnifique, la rivière Wisconsin.
Donc sur la terre de ses ancêtres, ça n'est pas sans importance.
Sur la terre de ses ancêtres, absolument. Sur la terre, dans le clan Lloyd-Jones. Et c'est une maison en elle-même extrêmement intéressante parce que il l'a reconstruite plusieurs fois, et il l'a tout le temps modifiée. Et c'est véritablement une œuvre en progression, hein, work in progress. Lorsque il commence à vivre avec Olga Ivanova, il est en même temps très attiré par le désert. Il a vécu un peu à Los Angeles, et en étant à Los Angeles, il avait plutôt envie de quitter la métropole californienne et de vivre dans le désert. Pour leur voyage de noces, ils vont en Arizona, à Phoenix. Et c'est en Arizona que Wright va créer un nouveau Taliesin, Taliesin West.
Donc il y aura deux Taliesin, un peu un Taliesin de l'hiver et un Taliesin de l'été. Mais qu'est-ce que c'est que ce Taliesin ? C'est à la fois une maison, mais c'est aussi un peu une ferme, c'est aussi une école d'architecture, c'est aussi un atelier d'architecture.
Alors au début, c'est une maison et une ferme, 80 hectares au départ. Une maison, une ferme, un jardin, un foyer, dit-il. Et ensuite, Wright va avoir l'idée, en 1932, de créer le collège, c'est-à-dire de recevoir des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent devenir architectes et de les former à l'architecture.
Et pourquoi fait-il cela ? Qu'est-ce qu'il recherche ?
Ah, je pense qu'il y a d'abord une façon de survivre, parce que la vie est extrêmement difficile pendant la crise de 29-30. Et en 1932, il a l'idée de créer cette école. C'est aussi une façon, bien sûr, de transmettre, de former les gens à partir de ses propres conceptions.
Donc c'est là où on retrouve le côté un petit peu gourou de Frank Lloyd Wright.
Oui, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, il y a des livres de témoignages de ses anciens élèves, notamment Edgar Taffel a écrit un très beau livre de souvenirs et d'architecture sur ses années avec Wright, où il dit que les étudiants, les élèves devaient considérer Wright comme un génie, sinon et c'était pas possible d'être dans son école. Il avait tout le temps raison. Et il fallait suivre son chemin.
Est-ce que ça peut ressembler un petit peu à ce qui sera l'expérience quelques années plus tard du Bauhaus en Allemagne, de cette vie communautaire qui englobe à la fois l'architecture, mais aussi une nouvelle manière de vivre ensemble ?
Avec un lien plus fort à l'agriculture. C'est ça peut-être la grande différence avec le Bauhaus. Et le fait aussi, le Bauhaus, il y avait de nombreux professeurs. À Taliesin, il est le seul maître. Même si petit à petit, un certain nombre d'élèves vont devenir des figures permanentes de l'agence. Quelqu'un comme Wes Peters, John Hove, sont des architectes qui ont créé leur œuvre après la mort de Wright, mais qui étaient déjà extrêmement présents. Et je pense les 10 dernières années de l'œuvre de Wright, ils participent autant à la création de l'œuvre que Wright lui-même.
Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il va y avoir un drame dans le premier Taliesin, puisqu'en 1914, il y a un employé de Taliesin qui tue à la fois la femme de Wright et 6 autres personnes. Mais il va reconstruire la villa. C'est tout de même quelque chose qui, probablement, a dû le marquer énormément.
Ah, bien sûr, hein, c'est une catastrophe, évidemment. Ça m'a toujours fait penser au crime des sœurs Papin, vous savez, ces deux bonnes qui tuent leur maître en 1933 dans la ville du Mans. C'est un crime qui a beaucoup intéressé Lacan. Il a fait un gros dossier dans le Minotaure, dans cette revue du Minotaure sur les sœurs Papin.
Finalement, qu'est-ce qui vous semble, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans la trajectoire de Frank Lloyd Wright et qu'est-ce que vous auriez envie de dire finalement sur son œuvre ?
Ah, c'est son côté paradoxal et c'est à la fois un grand moderne et en même temps son architecture interroge la modernité. Il y a une part critique. Lorsqu'il construit les maisons en parpaing, le parpaing, c'est véritablement un matériau moderne. Mais l'architecture qu'il fait est à la fois extrêmement moderne et en même temps totalement anti-moderne. On pourrait dire que c'est un anti-moderne autant qu'un grand moderne.
Merci beaucoup, Daniel Trébert, d'être venu nous parler aujourd'hui, notamment de la personnalité de Wright et aussi de l'expérience de Taliesin. Je renvoie nos auditeurs sur votre livre qui vient de paraître aux éditions Parenthèse sous le titre « Frank Lloyd Wright, 5 approches ».
Merci, Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'était « Avoir raison » avec Frank Lloyd Wright, premier épisode, Mathieu Garrigou-Lagrange, Marie-Laure Ciboulet, Théo Gomard. Demain, on continue cette série d'Avoir raison avec par l'évocation des écrits de Wright. Ce sera grâce à Claude Massu qui viendra nous parler en particulier de deux livres de l'architecte, Testament et La ville évanescente. Dans un instant, la suite de vos programmes sur France Culture.